Second manifeste du Conseil général sur la guerre franco-prussienne. Aux membres de l'association en Europe et aux États-Unis. Dans notre premier manifeste du 23 juillet, nous disions, ouvrez les guillemets, le glas de mort du Second Empire a déjà sonné à Paris. Il finira comme il a commencé, par une parodie. Mais n'oublions pas que ce sont les gouvernements et les classes dominantes d'Europe qui ont permis à Louis-Napoléon de jouer 18 ans la farce féroce de l'Empire restauré. Fermez les guillemets. Ainsi, avant même que les opérations de guerre aient effectivement commencé, nous traitions la duperie bonapartiste comme une chose du passé. Si nous ne nous trompions pas, touchant la vitalité du Second Empire, nous n'avions pas tort non plus dans notre crainte que la guerre allemande puisse perdre son caractère strictement défensif et dégénérer en une guerre contre le peuple français. La guerre de défense se termina en fait avec la reddition de Louis Bonaparte, la capitulation de Sedan et la proclamation de la République à Paris. Mais longtemps avant ces événements, au moment même que la pourriture profonde des armées impériales fut évidente, la Camarilla militaire prussienne s'était décidée en faveur de la conquête. Il y avait bien sur leur route un vilain obstacle, les propres proclamations du roi Guillaume au début de la guerre. Dans son discours du trône à la Diète de l'Allemagne du Nord, il avait solennellement déclaré qu'il faisait la guerre à l'empereur des Français et non au peuple français. Le 11 août, il avait lancé un manifeste à la nation française, où il disait, ouvrez les guillemets, l'empereur Napoléon ayant fait, par terre et par mer, une attaque contre la nation allemande, qui désirait et désire encore vivre en paix avec le peuple français, j'ai assumé le commandement des armées allemandes pour repousser cette agression. Et j'ai été conduit par les événements militaires à passer les frontières de la France. Fermez les guillemets. Non content d'affirmer le caractère défensif de la guerre par la déclaration qu'il n'assurait le commandement des armées allemandes que, ouvrez les guillemets, pour repousser l'agression, fermez les guillemets, il ajoute qu'il était seulement, ouvrez les guillemets, conduit par les événements militaires, fermez les guillemets, à passer les frontières de France. Une guerre défensive peut, certes, ne pas exclure des opérations offensives dictées par les, ouvrez les guillemets, événements militaires, fermez les guillemets. Ainsi, le roi Pieux se trouvait engagé devant la France et le monde à une guerre strictement défensive. Comment le délier de son engagement solennel? Les metteurs en scène devaient le présenter comme fléchissant à regret devant l'irrésistible exigence de la nation allemande. Ils en donnèrent sur le champ la consigne à la classe moyenne libérale d'Allemagne, avec ses professeurs, ses capitalistes, ses conseillers municipaux et ses gens de plume. Cette classe moyenne qui, dans ses combats pour la liberté civile, avait, de 1846 à 1870, donné un spectacle sans exemple d'irrésolution, d'incapacité et de couardise, se sentit, bien sûr, profondément ravie de chevaucher la scène européenne sous l'aspect du lion rugissant du patriotisme allemand. Elle revendiquait son indépendance civique en affectant de contraindre le gouvernement prussien au dessein même, tenu secret, de ce gouvernement lui-même. C'est en pénitence de sa foi persévérante et presque religieuse en l'infaillibilité de Louis Bonaparte qu'elle réclame à grands cris le démembrement de la République française. Écoutons un moment les plaidoyers singuliers de ces braves patriotes. Ils n'osent pas prétendre que le peuple d'Alsace et de Lorraine soupire après l'accolade allemande, bien au contraire. Pour le punir de son patriotisme français, Strasbourg, ville que domine une citadelle indépendante, a été 6 jours délibérément et infernalement bombardée par des bombes explosives « allemandes » entre guillemets, qui la mirent en feu et tuèrent un grand nombre de ses habitants sans défense. Pourtant, il fut un temps où le sol de ces provinces appartenait à l'Empire allemand d'autrefois. C'est pourquoi, paraît-il, le sol et les êtres humains qui ont poussé dessus doivent être confisqués comme une propriété allemande imprescriptible. Si la carte d'Europe doit être refaite au goût de l'antiquaire, n'oublions sous aucun prétexte que l'électeur de Brandebourg, pour ses possessions prussiennes, était le vassal de la République polonaise. Les patriotes plus avisés, toutefois, réclament l'Alsace et la partie de la Lorraine qui parle l'allemand comme une « garantie matérielle » entre guillemets contre l'agression française. Comme cet argument méprisable a égaré bien des gens d'esprit faible, nous sommes dans l'obligation de le considérer plus complètement. Il n'y a pas de doute que la configuration générale de l'Alsace, en comparaison avec la rive opposée du Rhin, et la présence d'une ville largement fortifiée comme Strasbourg, à mi-route environ entre Bâle et Gemmersheim, favorise énormément une invasion française de l'Allemagne du Sud, tandis qu'elle constitue des difficultés particulières à une invasion de la France venant de l'Allemagne du Sud. Il n'y a de plus aucun doute que l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine de langue allemande donnerait à l'Allemagne du Sud une frontière beaucoup plus forte, d'autant plus qu'elle serait alors maîtresse de la crête des Vosges dans toute sa longueur et des forteresses qui en protègent les cols septentrionaux. Si Metz était annexée du même coup, la France serait pour le moment privée de ses deux principales bases d'opérations contre l'Allemagne. Mais cela ne l'empêcherait pas d'en construire une nouvelle, à Nancy ou à Verdun. Tant que l'Allemagne possède Koblenz, Mayence, Gemmersheim, Rastatt et Ulm, toute base d'opérations contre la France est pleinement utilisée dans cette guerre-ci, avec quelle apparence d'honnêteté peut-elle envier à la France Strasbourg et Metz, les deux seules forteresses de quelque importance qu'elle ait de ce côté? De plus, Strasbourg ne menace l'Allemagne du Sud qu'autant que l'Allemagne du Sud est une puissance séparée de l'Allemagne du Nord. De 1792 à 1795, l'Allemagne du Sud n'a jamais été envahie de ce côté-là parce que la Prusse était sa partenaire dans la guerre contre la Révolution française. Mais aussitôt que la Prusse eut fait sa paix à elle en 1795 et laissé le Sud se débattre tout seul, les invasions du Sud de l'Allemagne, avec Strasbourg pour base, commencèrent et se poursuivirent jusqu'à 1809. Le fait est qu'une Allemagne unie peut toujours rendre Strasbourg et n'importe quelle armée française en Alsace inopérante en concentrant toutes ses troupes, comme cela a été fait dans la guerre actuelle, entre Sarre-Louis et Landau, et en avançant ou en acceptant la bataille sur la ligne de la route de Mayence à Metz. Tant que la masse des troupes allemandes est postée là, toute armée française avançant de Strasbourg vers l'Allemagne du Sud serait prise à revers et aurait ses communications menacées. Si la campagne actuelle a prouvé quelque chose, c'est la facilité d'envahir la France de l'Allemagne. Mais, en bonne foi, n'est-ce pas à la fois une absurdité et un anachronisme de faire des considérations militaires le principe suivant lequel les frontières des nations doivent être fixées? Si cette règle devait prévaloir, l'Autriche aurait encore droit à Venise et à la ligne du Mincio, et la France à la ligne du Rhin, pour protéger Paris, qui se trouve certainement plus exposée à une attaque du nord-est que n'est Berlin à une attaque du sud-ouest. Si les limites doivent être fixées suivant les intérêts militaires, il n'y aura pas de fin aux contestations, parce que toute ligne militaire est nécessairement défectueuse et peut être affermie en annexant un peu plus loin de territoire. Et de plus, ces limites ne peuvent jamais être fixées finalement et loyalement, parce qu'elles doivent être toujours imposées par le vainqueur sur le vaincu, et en conséquence, portent en elles le germe de guerres nouvelles. Telle est la leçon de toute l'histoire. Il en est ainsi des nations comme des individus. Pour leur enlever leurs moyens d'attaque, il faut leur enlever leurs moyens de défense. Il ne faut pas seulement les garrotter, mais les mettre à mort. Si jamais un vainqueur prit des « garanties matérielles » entre guillemets pour briser les nerfs d'une nation, le premier Napoléon le fit par le traité de Tilsit. Note de bas de page. en vertu du traité de Tilsit, 1807 entre parenthèses, la France contraignit la Prusse à réduire son armée, à payer une contribution de 100 millions et à céder du territoire à l'ouest et à l'est. Fin de la note de bas de page. Si jamais un vainqueur prit des garanties matérielles entre guillemets pour briser les nerfs d'une nation, le premier Napoléon le fit par le traité de Tilsit et la façon dont il l'exécuta contre la Prusse et le reste de l'Allemagne. Pourtant, quelques années plus tard, sa puissance gigantesque se fendit comme un roseau pourri sur le dos du peuple allemand. Que sont les « garanties matérielles » entre guillemets que la Prusse, dans ses rêves les plus déréglés, peut ou ose imposer à la France, comparées aux « garanties matérielles » entre guillemets que le premier Napoléon lui avait arrachées à elle-même? Le résultat ne s'en trouvera pas moins désastreux. L'histoire mesurera sa récompense, non d'après la quantité de kilomètres carrés conquis sur la France, mais d'après la qualité du crime de faire revivre, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la politique de conquête. Mais, disent les porte-paroles du patriotisme teuton, on ne doit pas confondre Allemands et Français. Ce que nous voulons, ce n'est pas la gloire, mais la sécurité. Les Allemands sont un peuple essentiellement pacifique. Sous leur sobre tutelle, la conquête même se transforme d'une condition de guerre future en un gage de paix perpétuelle. Certes, ce ne sont pas les Allemands qui ont envahi la France en 1792 dans le sublime dessein de clouer à la baïonnette la révolution du XVIIIe siècle. Ce ne sont pas les Allemands qui se sont salis les mains en subjuguant l'Italie, en opprimant la Hongrie, en démembrant la Pologne. Leur système militaire actuel, qui divise toute la population mâle valide en deux parts, l'une formant une armée en service et l'autre formant une armée en congé, toutes deux également tenues à une obéissance passive à des chefs de droit divin, un tel système militaire est, bien sûr, ouvrez les guillemets, une garantie matérielle, fermez les guillemets, pour maintenir la paix et le but dernier des tendances civilisatrices. En Allemagne comme partout ailleurs, les sycophantes des puissants du jour empoisonnent l'esprit populaire par l'encens de louanges mensongères. Indignés qu'ils prétendent être à la vue des forteresses françaises à Metz et Strasbourg, ces patriotes allemands ne voient aucun mal au vaste système de fortifications moscovites à Varsovie, Modlin et Ivangorod. Alors qu'ils roulent les yeux devant les horreurs de l'infamie de l'invasion impériale, ils les ferment devant la tutelle de l'autocratisme. Comme en 1865, des promesses furent échangées entre Louis Bonaparte et Bismarck. De même, en 1870, des promesses ont été échangées entre Gortchakov et Bismarck. Note de bas de page. Louis Bonaparte promit à Bismarck en 1865 la neutralité de la France en cas de guerre austro-prussienne. En 1870, le ministre des Affaires étrangères russe, Gortchakov, promit la neutralité de la Russie dans la guerre franco-prussienne. Fin de la note de bas de page. Comme Louis Bonaparte se flattait que la guerre de 1866, ayant pour effet l'épuisement commun de l'Autriche et de la Prusse, ferait de lui l'arbitre suprême de l'Allemagne, de même, Alexandre se flattait que la guerre de 1870, ayant pour effet l'épuisement commun de l'Allemagne et de la France, ferait de lui l'arbitre suprême du continent occidental. Comme le Second Empire trouvait la Confédération de l'Allemagne du Nord incompatible avec son existence, de même, la Russie autocratique doit se considérer en péril du fait d'un empire allemand sous une direction prussienne. Telle est la loi du vieux système politique. Dans son giron, le gain d'un État est une perte pour l'autre. L'influence prédominante du tsar sur l'Europe prend racine dans son emprise traditionnelle sur l'Allemagne. Au moment où, dans la Russie même, de volcaniques actions sociales menacent de secouer la base même de l'autocratie, Le tsar pourrait-il supporter une telle perte de prestige à l'étranger? Déjà, les journaux moscovites répètent le langage des journaux bonapartistes après la guerre de 1866. Note de bas de page. La presse russe s'en prenait au gouvernement de Russie pour sa position amicale à l'égard de la Prusse. Fin de la note de bas de page. Est-ce que les patriotes teutons croient réellement que paix et liberté seront garanties à l'Allemagne en jetant la France dans les bras de la Russie? Si la fortune de ses armes, l'arrogance du succès et l'intrigue dynastique conduisent l'Allemagne à une spoliation du territoire français, il ne lui restera alors d'ouvert que deux parties. Elle doit à tout risque se faire l'instrument avoué de l'expansion russe ou, après un court répit, s'apprêter à nouveau pour une autre guerre, défensive entre guillemets, non pas une de ces guerres localisées entre guillemets d'invention nouvelle, mais une guerre de races, une guerre avec les races latines et slaves coalisées. La classe ouvrière allemande a résolument donné son appui à la guerre, qu'il n'était pas en son pouvoir de prévenir, comme à une guerre pour l'indépendance allemande et la libération de la France et de l'Europe de cet incube pestilentiel, le Second Empire. Ce sont les ouvriers allemands qui, unis aux travailleurs ruraux, ont fourni les nerfs et les muscles d'armées héroïques qui abandonnaient derrière elles leurs familles à demi mortes de faim. Décimés par les batailles au dehors, ils seront décimés une fois de plus chez eux par la misère. À leur tour, ils vont s'avancer maintenant pour demander des « garanties » entre guillemets, garanties de ce que leurs immenses sacrifices n'ont pas été faits en vain, de ce qu'ils ont conquis la liberté, de ce que la victoire sur les armées impériales ne sera pas, comme en 1815, changée en la défaite du peuple allemand. Et, comme la première de ces garanties, ils réclament une paix honorable pour la France et la reconnaissance de la République française. Le comité central du Parti ouvrier social-démocrate allemand a lancé, le 5 septembre, un manifeste insistant énergiquement sur ces garanties. Ouvrez les guillemets. « Nous, disent-ils, nous protestons contre l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, et nous sommes conscients de ce que nous parlons au nom de la classe ouvrière allemande. Dans l'intérêt commun de la France et de l'Allemagne, dans l'intérêt de la paix et de la liberté, dans l'intérêt de la civilisation occidentale contre la barbarie orientale, les ouvriers allemands ne toléreront pas patiemment l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Nous nous tiendrons fidèlement aux côtés de nos camarades ouvriers de tous les pays pour la cause commune internationale du prolétariat. » Fermez les guillemets. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous sentir assurés de leur réussite immédiate. Si les ouvriers français, au milieu de la paix, ont failli à arrêter l'agresseur, les ouvriers allemands sont-ils plus capables d'arrêter le vainqueur au milieu de la fanfare des armes? Le manifeste des ouvriers allemands demande l'extradition de Louis Bonaparte comme d'un simple traître à la République française. Leurs gouvernements, au contraire, sont déjà en train de faire leurs efforts pour le réinstaller aux Tuileries comme l'homme le plus indiqué pour ruiner la France. Quoi qu'il puisse arriver, l'histoire montrera que la classe ouvrière allemande n'est pas faite de la même matière malléable que la classe moyenne allemande. Elle fera son devoir. Comme elle, nous saluons l'avènement de la République en France, mais, en même temps, nous sommes travaillés de pressentiments qui, nous espérons, se révéleront sans fondement. Cette République n'a pas renversé le trône, mais a simplement pris sa place devenue vacante. Elle a été proclamée non comme une conquête sociale, mais comme une mesure nationale de défense. Elle est dans les mains d'un gouvernement provisoire composé en partie d'orléanistes notoires, en partie de républicains de la classe moyenne, sur quelques-uns desquels l'insurrection de juin 1848 a laissé son stigmate indélébile. La division du travail entre les membres de ce gouvernement a l'air mal faite. Les orléanistes se sont saisis des places fortes de l'armée et de la police, alors qu'aux républicains prétendus sont échus les ministères où l'on parle. Quelques-uns de leurs premiers actes montrent clairement qu'ils ont hérité de l'Empire non seulement des ruines, mais aussi l'effroi de la classe ouvrière. Si des impossibilités de fait sont promises avec une phraséologie désordonnée au nom de la République, n'est-ce pas dans la vue de préparer les clameurs demandant un gouvernement possible, entre guillemets? Est-ce que la République, pour certains de ces fossoyeurs de la classe moyenne, n'a pas été faite pour servir de simple plastron et de pont vers une restauration orléaniste? La classe ouvrière française se meut donc dans des circonstances d'une difficulté extrême. Tout essaie de renverser le nouveau gouvernement dans la crise actuelle, quand l'ennemi frappe presque aux portes de Paris, serait une folie désespérée. Note de bas de page. Dans sa préface à la traduction russe des lettres à Kugelmann de Marx, Lénine écrivait à ce sujet, ouvrez les guillemets. Marx, en septembre 1870, 6 mois avant la Commune, avait expressément averti les ouvriers français. « L'insurrection sera une folie », déclarait-il dans la fameuse adresse de l'Internationale. Il dénonçait d'avance les illusions nationales sur la possibilité d'un mouvement dans le sens de 1792. Trois petits points. Mais quand les masses se soulèvent, Marx veut marcher avec elles, s'instruire en même temps qu'elles, en cours de lutte, et non pas donner des leçons bureaucratiques. Il comprend que toute tentative d'escompter d'avance, avec une précision parfaite, les chances de la lutte serait du charlatanisme ou du pédantisme incurable. Il met au-dessus de tout le fait que la classe ouvrière, historiquement, avec abnégation et initiative, créa l'histoire du monde. Marx considérait l'histoire du point de vue de ceux qui la créent, sans avoir la possibilité d'escompter infailliblement à l'avance les chances de succès, et non du point de vue de l'intellect petit bourgeois qui vient faire de la morale. Ouvrez les guillemets. Il aurait été facile de prévoir, trois petits points. On n'aurait pas dû se risquer, trois petits points. Fermez les guillemets. Lénine écrit également, ouvrez les guillemets. Marx savait voir aussi qu'il y a des moments de l'histoire où une lutte désespérée des masses, même pour une cause perdue d'avance, est indispensable pour l'éducation ultérieure de ces masses elles-mêmes et leur préparation à une lutte suivante. Ouvrez la parenthèse, Lénine, œuvre complète, édition française, tome 10, page 488, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Les ouvriers français doivent remplir leurs devoirs comme citoyens, mais en même temps, ils ne doivent pas se laisser entraîner par les souvenirs nationaux de 1792. Note de bas de page. Marx fait allusion à l'essor national des masses en France en 1792, alors qu'elles luttaient contre l'offensive des armées de la contre-révolution. Il met en garde contre la transposition mécanique du mot d'ordre. « La patrie en danger », entre guillemets, dans le cadre de la guerre franco-prussienne, ouvrez les guillemets. « Se battre contre les Prussiens au profit de la bourgeoisie serait folie », fermez les guillemets, entre parenthèses Engels. Fin de la note de bas de page. Les ouvriers français doivent remplir leurs devoirs comme citoyens, mais en même temps, ils ne doivent pas se laisser entraîner par les souvenirs nationaux de 1792, comme les paysans français se sont laissés duper par les souvenirs nationaux du Premier Empire. Note de bas de page. Lors des élections à la présidence, ouvrez la parenthèse, 10 décembre 1848, fermez la parenthèse, Louis Bonaparte utilisa les sentiments réactionnaires des paysans français. Les paysans lui apportèrent leur voix en mémoire de Napoléon Bonaparte, au nom duquel il rattachait, par méprise, les conquêtes de la Grande Révolution française. Fin de la note de bas de page. Ils n'ont pas à récapituler le passé, mais à édifier l'avenir. Que calmement et résolument, Ils utilisent les commodités de la liberté républicaine pour le travail de leur propre organisation de classe. Elle les dotera de nouvelles forces herculéennes pour la régénération de la France et notre tâche commune, l'émancipation du travail. De leur énergie et de leur sagesse dépend le sort de la République. Les ouvriers anglais ont déjà pris des mesures pour vaincre, par une pression salutaire venant de l'extérieur, la répugnance de leur gouvernement à reconnaître la République française. Note de bas de page. Marx fait allusion à la grande campagne engagée en faveur de la République française en Angleterre sur l'initiative de Marx et du Conseil général de l'Internationale. Fin de la note de bas de page. L'atermoiement actuel du gouvernement britannique a probablement pour but de racheter la guerre de 1792 contre les Jacobins. Note de bas de page. La guerre contre la Grande Révolution française que menait la coalition des États, entre parenthèses, Autriche, Prusse, Russie, Hollande, etc., fermez la parenthèse, et à laquelle, en février 1793, se joignit l'Angleterre. Fin de la note de bas de page. L'atermoiement actuel du gouvernement britannique a probablement pour but de racheter la guerre de 1792 contre les Jacobins et son indécente hâte à sanctionner le coup d'État. Les ouvriers anglais font donc appel à leur gouvernement pour s'opposer de tout son pouvoir au démembrement de la France qu'une partie de la presse anglaise est assez éhontée pour réclamer avec des hurlements. C'est la même presse qui, il y a 20 ans, déifiait Louis Bonaparte comme la providence de l'Europe, qui applaudissait avec frénésie à la révolte des négriers. Note de bas de page. Pendant la guerre civile en Amérique, 1861-1865, entre parenthèses, entre le Nord industriel et les planteurs esclavagistes du Sud, la presse bourgeoise anglaise prit le parti du Sud, c'est-à-dire du régime esclavagiste. Cela tenait à ce que la bourgeoisie anglaise voyait dans l'industrie du Nord un concurrent qui grandissait, tandis que le Sud fournissait le coton au marché anglais. Note de la rédaction, entre parenthèses. Fin de la note de bas de page. Maintenant, comme alors, elle besogne pour le négrier. Que les sections de l'Association internationale des travailleurs dans chaque pays poussent à l'action les classes ouvrières. Si elles oublient leurs devoirs, si elles demeurent passives, la terrible guerre actuelle ne sera que la fourrière de conflits internationaux encore plus mortels et conduira dans chaque nation à un triomphe renouvelé sur l'ouvrier des seigneurs du sabre, de la terre et du capital. Vive la République! Londres, 9 septembre 1870.